en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La journée scientifique Terre en mouvement, organisée en juin 2010 par le Bureau des Longitudes, portait sur les mouvements des différentes couches de la Terre. Canal Academy vous retransmet l'ensemble des communications en deux parties. Dans ce second volet, Marianne Greff, paléomagnéticienne à l'Institut de physique du globe de Paris, nous explique le paléomouvement des continents et du pôle, ou si vous préférez, les mouvements du manteau qui font bouger l'axe de rotation de la Terre. Gauthier Hulot, également paléomagnéticien à l'Institut de physique du globe de Paris, revient pour sa part sur les mouvements du noyau et les couplages noyau-manteau. Tout de suite, Marianne Greff.
En préliminaire, en fait, à mon exposé, je vais répondre à la question de Christian Bizoire qui a osé dire qu'il n'y avait aucune donnée sérieuse sur la mesure de la rotation de la Terre depuis 100 ans. Juste, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de données géodésiques, mais il y a beaucoup d'autres données géophysiques qui nous permettent d'avoir des informations sur l'orientation de la rotation de la Terre il y a, voire des millions d'années. Mais ce ne sont pas des données géodésiques, ce sont des données paléomagnétiques, parce que tout repose sur l'hypothèse que l'axe du dipôle magnétique et l'axe de rotation de la Terre, sur l'échelle de temps du million d'années, sont confondus. Donc à partir de mesures sur des échantillons, on peut connaître la direction du champ magnétique à l'époque, et à l'aide de quelques tours de passe-passe, je dirais, avoir une information sur la direction de l'axe de rotation, donc depuis des millions et des millions d'années. Donc c'est pour ça que là, je vais vous présenter une étude qui a été faite en collaboration avec Jean Bess, qui est paléomagnéticien à l'Institut de physique du globe, et Hélène Roubi, qui était une doctorante qui a travaillé avec nous, sur le paléomouvement des continents et du pôle de rotation. Donc mon exposé va se dérouler en fait en quatre parties. Je vais tout d'abord vous parler un peu des observations. Et ensuite, comme on sait que sur ces échelles de temps, ce qui va faire bouger l'axe de rotation de la Terre, c'est les mouvements qui existent dans le manteau. Je vais vous présenter un peu ce qu'on sait sur la dynamique du manteau à grande échelle spatiale, donc ce qui va nous intéresser. Puis ensuite, je vous expliquerai comment on peut calculer le champ de gravité et le géoïde associé à cette dynamique du manteau. Et enfin, comment cette dynamique du manteau perturbe les axes principaux d'inertie et par conservation du moment cinétique va perturber la rotation de la Terre. Donc le mouvement des plaques, en fait, on le connaît par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc là, mon repère ici va être l'axe de rotation de la Terre pour le moment. Donc ce mouvement des plaques, il se décompose en deux parties. D'une part, la tectonique des plaques, qu'on appelle également l'apparent polar wander, et d'autre part, un terme en fait qui correspond à un mouvement d'ensemble des plaques et du manteau terrestre par rapport à l'axe de rotation, un mouvement qui est connu sous le nom de true polar wander. Donc ce mouvement-là, on ne sait pas trop si c'est la planète dans son ensemble qui se réoriente par rapport à l'axe de rotation ou si c'est un mouvement de la lithosphère par rapport au manteau qui bougerait donc par rapport à ce repère lié au manteau. Donc c'est forcément une combinaison des deux effets, mais donc c'est vraiment l'ensemble du manteau qui va se réorienter par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc pour le paléomagnétisme, en fait, on utilise un repère qui est dit le repère des points chauds, donc un repère qui est supposé fixe, où on utilise en fait des points chauds qui viennent du noyau, donc pas des points chauds superficiels, mais qui viennent vraiment de la Terre profonde, du noyau, et on suppose qu'ils restent fixes sur des millions d'années. Donc ça nous permet de définir un repère pour représenter en fait le mouvement, donc soit des plaques par rapport à ce repère des points chauds, soit de l'axe de rotation par rapport à ce repère des points chauds. Donc en fait, dans ce repère-là, on s'aperçoit que le mouvement d'ensemble des plaques se traduit par une dérive du pôle de rotation par rapport au manteau. Ici, vous avez une vue du pôle nord, c'est une projection stéréographique, donc le pôle nord est au centre, c'est gradué de 15 degrés en latitude. Et je vous ai représenté en fait ce qu'on appelle ce true polar wander, donc ce mouvement du dipôle magnétique par rapport au manteau, ou du pôle de rotation par rapport au manteau, donc à 120 millions d'années, 100 millions d'années, 80, 70, 50, 30, et bien sûr, aujourd'hui, zéro, on est au pôle nord. Donc on voit en fait que le pôle de rotation s'est déplacé environ d'une trentaine de degrés durant les 200 derniers millions d'années. Il s'est déplacé à une vitesse qui varie au cours du temps. Si on représente cette vitesse en degrés par million d'années ici, dans l'axe des Y, en fonction du temps sur l'axe des X, on s'aperçoit en fait qu'elle a varié entre 0,1 et 0,7 degrés par million d'années, mais qu'en fait le mouvement du pôle est épisodique. Il y a des périodes où il s'est très très calme, proche de zéro, il bouge presque pas, et des périodes où c'est beaucoup plus rapide. Donc si on regarde à peu près ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez qu'on a une dérive à peu près de 0,2 degrés par million d'années. Dans le terme de dérive séculaire, Christian parlait seulement du rebond post-glaciaire, il y a également une contribution qui vient de la convection dans le manteau. 0,2 degrés par million d'années, ça fait à peu près 2 cm par an. Pour traduire les 10 cm par an observés, qui sont généralement attribués au rebond post-glaciaire. En fait, une partie doit venir de la convection du manteau. On va le voir un peu par la suite, parce qu'on va modéliser ça plus précisément. Donc en fait, c'est ce mouvement-là qu'on va chercher à expliquer, donc par un problème de redistribution des masses, comme tout à l'heure, mais cette fois avec des masses qui bougent dans le manteau. Donc la théorie qu'on utilise, c'est le théorème du moment cinétique, Donc, il nous dit simplement que dans un repère lié au manteau, le terme cinétique se conserve. Donc, DH sur DT plus oméga vectoriel H égale, là, j'ai mis le couple extérieur, mais dans notre approche, ça sera zéro. Il ne va pas y avoir de couplage extérieur, puisqu'on va regarder que des redistributions de masse. Donc, en fait, le moment angulaire ou moment cinétique, c'est le produit du tenseur d'inertie par le vecteur rotation, la vitesse angulaire du manteau, que je note petit oméga. Et en fait, ce tenseur d'inertie, je mets un petit peu d'équation parce que vous allez voir par la suite, c'est important pour comprendre à quoi ça correspond. Ce tenseur d'inertie de la Terre, en fait, on va le séparer en trois contributions. Le premier, que j'ai noté I, donc un terme diagonal, donc ça, I qui est simplement le moment d'inertie d'une Terre sphérique qui ne tourne pas de masse grand M et d'un rayon donné. Donc ça, c'est très bien connu. Le deuxième terme, en fait, va être une perturbation du tenseur d'inertie liée à la rotation de la Terre. Sous l'action de sa rotation, la Terre se déforme. Si on part d'une sphère, on la fait tourner, on va avoir un ellipsoïde aplati perpendiculairement à l'axe de rotation. Donc ce terme-là est pris en compte. Et on a également un terme donc, qui est celui qu'on va essayer de modéliser, que j'ai noté grand I, donc une matrice d'inertie, qui est induite par la redistribution des masses. Donc ça peut être dans la Terre, ça peut être aussi dans l'océan, dans l'atmosphère, comme on l'a vu tout à l'heure, également lié à un potentiel de marée ou aux pressions atmosphériques ou magnétiques. Donc tout ce qui va déformer la Terre va être dans ce terme-là. Sur les échelles de temps séculaires, en fait, vous avez deux termes. Le premier terme, qui correspond à la dérivée temporelle, va être très petit par rapport à ce terme-là. Oméga, je vous rappelle que c'est diurne. Le temps, au niveau géologique, c'est 1 million d'années, donc le d sur dt est beaucoup plus petit. Donc on va simplement pouvoir le négliger. Et du coup, mon théorème du moment cinétique va s'écrire simplement comme le produit vectoriel entre le vecteur rotation et le moment angulaire, qui doit être égal à zéro. Ça veut simplement dire que la vecteur rotation et le moment angulaire doivent être collinéaires. Et je vous rappelle que le moment angulaire, c'était le produit de la matrice d'inertie par le vecteur rotation. Donc en fait, ça va simplement vouloir dire que le vecteur rotation va tendre à être confondu avec les axes principaux d'inertie. Donc initialement, à l'état initial, tout est stable, la Terre tourne par rapport à son axe maximum d'inertie et par rapport à son axe de rotation. Si je perturbe le tenseur d'inertie, donc là j'ai fait le cas d'un cratère en surface, donc un défaut de masse, c'est l'exemple le plus simple, donc je vais avoir des nouveaux axes principaux d'inertie. L'axe maximum va avoir tendance à s'aligner dans la direction du défaut de masse et l'axe minimum à être perpendiculaire. Donc pour conserver le moment cinétique, en fait, donc là je vais me placer dans un repère lié aux étoiles, le repère des astronomes, donc je suppose que mon axe de rotation ne bouge pas par rapport aux étoiles. Et donc pour conserver le moment cinétique, dans ce repère où l'axe de rotation ne bouge pas, je vais avoir en fait l'axe d'inertie ou la planète qui va avoir tendance à se réorienter de façon à ce que les axes principaux d'inertie et le vecteur rotation soient alignés. Donc là, il faut faire bien attention que par rapport aux étoiles, l'axe de rotation ne bouge pas. Il ne s'agit pas du tout de faire varier l'obliquité de la Terre ou des choses comme ça. Ça ne bouge absolument pas, c'est juste la planète qui va dériver par rapport à son axe d'inertie initiale. Par contre, si je me plaçais à la surface de la Terre, ce que je vais voir, c'est que mon axe principal d'inertie, et je vais avoir mon vecteur rotation qui va bouger de façon à s'aligner avec l'axe principal d'inertie. Donc dans le repère lié au manteau ou à la surface de la Terre, je vois une dérive du pôle de rotation. Donc toutes les anomalies de masse dans le manteau, en fait, pour savoir comment elles vont perturber mon vecteur de rotation, il suffit que je calcule simplement les variations de pesanteur qu'elles vont induire en surface, le géoïde, et en déduire les axes principaux d'inertie. Donc ça va se ramener en fait à un problème de gravimétrie pour savoir comment vont s'aligner les axes principaux d'inertie. Donc il faut tout d'abord modéliser un peu les anomalies de masse et leur dynamique dans le manteau. Donc là j'ai repris un dessin d'après Courtillot et collaborateurs en 2003 qui illustre bien en fait l'intérieur de la Terre. Donc on va essentiellement s'intéresser aux grandes longueurs d'onde des anomalies de masse. L'inertie, le terme le plus important, c'est un terme qui est... Bon, il y a la sphère, mais il y a également le terme qui est ellipsoïdal. La Terre est quasiment ellipsoïdale. Donc en fait, on va s'intéresser aux très grandes longueurs d'onde des anomalies de masse. Et en fait, dans le manteau, ces anomalies de masse, elles sont de deux types. Donc on a d'une part des grands panaches chauds qui montent à partir de l'interface noyau-manteau. Donc ces panaches sont responsables, par exemple, des deux supersuels qu'on observe en surface, l'un sous le Pacifique, l'autre sous l'Afrique. Et à très grande longueur d'onde, vous avez également des plaques qui plongent. Donc vous aviez les plaques qui bougeaient en surface et les plaques au niveau des zones de subduction, en fait, elles plongent dans le manteau. Donc si vous avez tout le Pacifique ici, en fait, les plaques, elles plongent essentiellement dans la ceinture du Pacifique. Donc elles vont générer, en fait, des anomalies de masse de très grande longueur d'onde. Ces panaches qui montent, en fait, à grande longueur d'onde, on les appelle des dômes. Et ils ont été mis en évidence, en fait, à partir d'expériences de laboratoire de convection thermochimique. Donc c'est une petite cuve, donc c'est des expériences effectuées par Anne Davaille, qui était d'abord à l'IPG, maintenant qui est à Orsay. Donc on parle de petite cuve, on a un fluide stratifié en densité, en viscosité, et à partir de différentes conditions limites, etc. On peut montrer qu'on fait apparaître un régime de dôme, donc de grands panaches dans le manteau, pour une gamme de paramètres physiques et géométriques qui sont très plausibles pour la Terre. Et dans ce régime, en fait, donc les dômes oscilleraient dans le manteau inférieur avec des périodes allant de 100 millions d'années à quelques milliards d'années. Donc vous avez les dômes qui restent dans le manteau inférieur, qui oscillent, qui sont plus ou moins actifs. Et bien sûr, à la surface de ces dômes, dans le manteau supérieur, vous pouvez avoir des petits panaches qui partent, tels qu'on les observe en surface avec toutes les traces de volcanisme. Donc, pour modéliser la géométrie de ces dômes, donc la physique de ces dômes a bien été mise en évidence dans ces expériences analogiques. Pour trouver la géométrie de ces dômes, en fait, nous avons utilisé des données de tomographie sismique. Donc, la tomographie sismique, c'est une façon d'imager l'intérieur de la Terre. Donc, à partir de la propagation des ondes, on a des informations sur les variations latérales d'anomalies de vitesse, donc d'anomalies de masse et de rhéologie du manteau partout dans la Terre. Sur la base des expériences analogiques, on a supposé qu'on avait un contraste de densité avec le manteau environnant d'environ moins 50 kg par mètre cube, ce qui fait un excès de température à peu près de 300 degrés. Donc ça, c'est pour avoir la distribution actuelle des dômes. Nous, on s'intéresse à ce qui se passe depuis 200 millions d'années, donc il faut avoir une idée de comment ces dômes ont évolué dans le passé. Et pour ça, en fait, on a fait une hypothèse très simple. On a supposé que ces dômes étaient stables depuis les 120 derniers millions d'années. Tout ça pour vous montrer en fait que le volcanisme, au cours du temps, il est resté très très localisé sur ces grands dômes. En fait. Il n'a pas beaucoup bougé, donc l'hypothèse, comme on n'a pas beaucoup d'informations, là on n'est plus dans les précisions d'astronomie sur ce qui s'est passé dans le passé, on fait l'hypothèse que ces dômes sont stables au cours du temps. Donc on a construit comme ça un modèle de large panache chaud dans le manteau. Donc la deuxième source des anomalies de masse dans le manteau, je vous le disais tout à l'heure, ce sont les plaques qui plongent. Donc là, pour les plaques qui plongent, on a beaucoup plus d'observations, parce qu'on connaît quand même relativement bien la tectonique des plaques, telle que je vous l'ai montré au début, depuis au moins 120 millions d'années. Donc pour ça, on a fait le choix de faire des modèles semi-analytiques, donc où les plaques sont modélisées comme des petits slams, en fait, des petites gouttelettes qui plongent verticalement dans le manteau. Donc ça, c'est une étude qui avait été proposée il y a bientôt 20 ans maintenant par Yannick Ricard et ses collaborateurs, que nous avons repris sur nos échelles de temps. Donc vous avez la plaque océanique qui plonge sous une autre plaque. Donc elle plonge à la vitesse qu'elle a en surface, donc on connaît bien la géométrie de la subduction en surface et les vitesses, donc là on a l'information. Donc elle plonge verticalement, et arrivée à la zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, comme il y a un fort saut de viscosité, en fait, la plaque va être ralentie et elle va être un peu épaissie. Donc ça, ça a été modélisé par des facteurs qui dépendent du rapport de viscosité. Donc une des hypothèses du modèle de Ricard, en fait, était que la plaque garde un saut de densité constant avec le manteau environnant. La plaque est plus froide, donc on aura un saut de densité positif qui est supposé être égal à 40 kg par mètre cube. On discutera cette hypothèse par la suite. Donc à partir de ce modèle-là tout simple de plaque qui plonge, donc on est reparti du modèle de subduction depuis 120 millions d'années. Donc on a utilisé le modèle de Lisgo, Bertoloni et Richards, donc qui décompose les subductions en 12 périodes différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc qui nous donne la géométrie des plaques, la géométrie des zones de subduction et les vitesses de subduction. Donc on a tout ce qu'il faut pour construire notre modèle d'anomalie de masse jusqu'à 120 millions d'années. La période 120-200 millions d'années, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, étant moins bien connue, bon, il y a plus d'incertitudes, mais on en a quand même besoin parce qu'une plaque met à peu près 80 millions d'années entre le moment où elle part à la surface et le moment où elle arrive à l'interface noyau-manteau. Donc comme on veut voir le mouvement du pôle depuis 120 millions d'années, il faut avoir une condition initiale des premières plaques qui plongent au moins il y a 200 millions d'années. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a construit notre modèle d'anomalie de masse dans le manteau, qui varie au cours du temps, mais on a quand même essayé de le comparer en fait à nos observations tomographiques, donc par la sismologie, pour voir si ça marchait pas trop mal. Donc maintenant qu'on connaît les anomalies de masse dans le manteau, donc je vous disais tout à l'heure, pour calculer l'inertie, il faut calculer en fait les perturbations associées au champ de gravité liées à ces anomalies de masse. Une anomalie de masse va me perturber la gravité en surface et va me perturber le géoïde. Le géoïde, c'est l'équipotentiel en surface. On a calculé pour ces modèles d'anomalies de masse en fait, donc le géoïde, c'est la hauteur de l'équipotentiel, donc par rapport à une référence d'ellipsoïde hydrostatique, donc c'est quelque chose qui se mesure en mètres. Donc là, mon échelle va de moins 120 mètres à plus 120 mètres. Donc ce terme-là, bien sûr, ne prend pas en compte le fait que la Terre est aplatie sous l'action de sa rotation. On a uniquement calculé, et on va le comparer, le géoïde induit par les anomalies de masse dans le manteau. Donc quand vous regardez le géoïde induit par les plaques qui plongent, donc vous avez toujours le Pacifique au milieu, vous voyez en fait qu'on retrouve bien toute la ceinture du Pacifique où les plaques plongent depuis longtemps, donc sont arrivées dans le manteau inférieur et vont m'induire des creux dans le géoïde. En revanche, au niveau de l'Amérique du Sud, par exemple, qui est en fait plonge beaucoup moins profond dans le manteau, elle va nous donner une bosse au niveau du géoïde. Ça vient du fait que dans le calcul du géoïde, on prend en compte à la fois l'effet direct de la masse, mais on doit prendre en compte également les déformations des interfaces. Donc une masse située dans le manteau inférieur me donnera un creux dans le géoïde, alors qu'une masse positive située dans le manteau supérieur me donnera une bosse. Donc on voit que c'est pas très très simple d'interpréter le géoïde en termes d'anomalie de masse dans le manteau. On peut avoir un peu des bosses ou des creux suivant l'endroit où est située la source. Donc l'ordre de grandeur ici qui est important, c'est de l'ordre de la centaine de mètres, moins 100 mètres à peu près, au niveau des creux du géoïde. Le géoïde induit par les dômes, lui, est un peu plus faible. Donc si je superpose ces deux termes, je vais obtenir ce que j'appelle mon géoïde total calculé, donc avec les plaques et les dômes, qui est représenté ici. Donc ça, c'est le géoïde actuel, bien sûr, qui ne dépend pas du temps, mais qui prend en compte toute l'histoire des plaques qui a plongé dans le manteau. Donc bien sûr, on va essayer de comparer. L'idée, c'est de voir si notre géoïde calculé, essayer de l'améliorer, notre modèle. Donc on va le comparer au géoïde observé. Donc ça, c'est le modèle Huygens, un des derniers modèles obtenus à partir de la géodésie spatiale, les données de Champ et de Gress. Donc modèle qui a été corrigé d'une part de l'aplatissement hydrostatique, les 22 km dont je vous parlais tout à l'heure, et que j'ai également corrigé du rebond post-glaciaire, pour retirer quand même un terme assez important. Donc si je compare mon géoïde calculé à mon géoïde observé, En fait, je me rends compte qu'on obtient bien ici donc les creux du géoïde liés aux plaques qui plongent, mais on s'aperçoit qu'au niveau de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, en fait, notre signal n'est pas très bon. Donc ça vient du fait qu'on a fait l'hypothèse que les plaques plongent jusqu'à l'interface noyau-manteau, qui est une hypothèse très forte parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment les plaques se comportent quand elles arrivent dans le manteau inférieur. Donc différentes études se sont intéressées à ça. Bon, là, je vais juste résumer un petit peu. Donc il y a les études de sismologie, comme l'étude de Fukao et ses collaborateurs, qui a en fait listé toutes les plaques en fonction de leur profondeur où on les voit dans la sismologie. Donc on s'aperçoit que la plupart traversent bien la zone de transition à 670 km, mais qu'au-delà de 1500 km dans le manteau, ben on voit, on n'a pas assez de résolution en fait pour être sûr que les plaques arrivent jusqu'au noyau. D'autres types d'études basées plutôt sur la minéralogie et la simulation numérique en prenant une plaque à une température donnée avec des coefficients donnés qui plongent nous montrent qu'en fait, seule la partie supérieure de la plaque, donc qui serait une croûte océanique en fait composée d'aburgite, pourrait plonger jusqu'au niveau du noyau. Donc en fait, dans le bilan, c'est qu'on ne sait pas trop si les plaques plongent ou pas jusqu'au noyau, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc en fait, on part d'un modèle analytique, on a essayé de calculer, en fait, en faisant simplement des essais-erreurs, en fait, à quel endroit il faudrait annuler le saut de densité des plaques avec le manteau environnant pour que ça nous donne de bons géoïdes. Donc bien sûr, en calculant les variances, enfin en faisant toutes les statistiques nécessaires. Et le modèle final qu'on a proposé, en fait, donc on a les dômes tels que je vous les ai expliqués, et en fait, toutes les plaques plongent jusqu'à l'interface noyau-manteau, sauf l'Amérique du Nord qui s'arrêterait à 2250 km de profondeur, ce qui est quand même très bas, je vous rappelle que l'interface noyau-manteau, c'est 2900 km, et l'Amérique du Sud, en fait, qui, elle, s'arrêterait de plonger à peu près à 800 km. Donc on a bien sûr comparé ça avec la tomographie, et ce modèle donc, semble assez cohérent. Et quand je regarde le géoïde calculé à celui observé, donc ça marche quand même relativement bien. On obtient, donc là, on est sur des longueurs d'onde qui vont jusqu'à 2000 km. On obtient des variances de l'ordre de 75%. Et si je regarde uniquement les grandes longueurs d'onde, du terme ellipsoïdal, que j'appellerais souvent le terme de degré 2 dans le géoïde, on s'aperçoit qu'on a 95% de variance. Donc notre modèle marche quand même relativement bien. Donc on a vraiment essayé de caler notre modèle sur tout ce qu'on peut observer actuellement, donc tomographie, minéralogie, gravimétrie, maintenant, pour pouvoir le faire varier ensuite au cours du temps. Donc les axes principaux d'inertie maintenant, donc là j'ai mon géoïde, je le décompose en harmonique sphérique, bon, peu importe, je ne vais pas insister là-dessus, mais pour dire que ma matrice d'inertie correspond à ce qu'on appelle le terme de degré 2 dans le géoïde, donc c'est le terme que j'appelle ellipsoïdal. Donc vous avez bien sûr, ce n'est pas ellipsoïdal de révolution, là c'est un ellipsoïde à trois axes, donc j'ai représenté ce terme de degré 2 avec la même échelle que tout à l'heure, et donc mon tenseur d'inertie, en fait, il va dépendre que de ces termes-là du géoïde, et donc en le diagonalisant simplement, bah, je peux calculer les axes principaux d'inertie. Donc, connaissant mes anomalies de masse dans le manteau depuis 120 millions d'années, je vais pouvoir calculer le géoïde depuis 120 millions d'années et je vais pouvoir en déduire comment a varié mon axe maximum d'inertie depuis 120 millions d'années. Donc, le mouvement du pôle calculé, il est toujours dans un méridien ou un grand cercle perpendiculaire à l'Afrique, mais dans la mauvaise direction pour le moment. Les pics de vitesse calculés sont bien corrélés avec les observations. Donc, en fait, on s'est vraiment posé la question pendant longtemps. On n'a toujours pas trouvé la solution, d'ailleurs. Donc, si vous avez des idées, on est preneurs pour savoir pourquoi on a ce pôle dans le mauvais sens. Donc, la première question qu'on s'est posée, on s'est dit, c'est un problème de référentiel. La fixité des points chauds dans le référentiel utilisé par le paléomagnéticien est largement remis en doute. Donc, en fait, on a refait exactement le même calcul, mais en se plaçant cette fois dans un référentiel où l'Afrique est fixe. Parce qu'en bon, donc connaissant le mouvement relatif des plaques les unes par rapport aux autres, on peut exprimer les zones de subduction par rapport à l'Afrique supposée fixe. Et le paléomagnétisme nous donne l'orientation du dipôle magnétique par rapport à l'Afrique, si je prends des échantillons en Afrique. Donc je peux tout à fait reconstituer tout mon petit scénario dans un repère lié à l'Afrique. Mais à ce moment-là, je ne comparerai pas ça avec le true polar wonder, mais ce qu'on appelle l'apparente polar wonder, qui correspond vraiment au mouvement de l'Afrique par rapport au dipôle magnétique. Et quand on fait ça, en fait, on est toujours dans la mauvaise direction. Donc au début, on a vraiment pensé que c'était un problème de mauvaise compréhension entre les géodésiens, enfin les gens de ma communauté et les paléomagnéticiens, mais il semble qu'il y a... Donc le seul problème qui reste encore peut-être possible d'expliquer cette mauvaise direction, ça serait le problème lié à la condition initiale. Et que la position du pôle à 120 millions d'années, en fait, dépend essentiellement de l'histoire des subductions entre 200 et 120 millions d'années. Je vous ai dit qu'il fallait 80 millions d'années pour qu'une plaque arrive en bas, donc il faut bien connaître cette zone-là. Or, c'est vraiment une période où on a très très peu de données, il n'y a pas de données sur le Pacifique après 120 millions d'années, voire enfin, 130-140 millions d'années, donc on est obligé de faire énormément d'hypothèses. Donc on a repris un peu toute cette méthode en fait en essayant de l'appliquer donc jusqu'à 350 millions d'années, donc en enchaînant justement l'apogée, où l'Afrique reste relativement fixe, après l'éclatement de l'apogée, etc. Donc on avait des questions tout à l'heure pour voir ce que ça donnait en termes de dérive. Et en fait, ça ne change absolument rien à ce problème de direction, mais la seule chose qui reste relativement stable, c'est que même pendant la période de l'apogée, en fait, si je me place par rapport à l'Afrique fixe, j'ai toujours mon vecteur rotation qui est dans un plan perpendiculaire à l'Afrique. Donc en fait, il semblerait, donc si je me place dans un repère liée à mon dipôle magnétique. Donc là, je démarque à 200 millions d'années, mais on peut extrapoler ce résultat à 350 millions d'années. Il semblerait que l'Afrique, elle fait un mouvement dans le sens horaire, par exemple, entre 180 et 150. Après, elle repart dans l'autre sens, entre 150 et 50, et depuis 50, elle revient. Et on observe exactement ce même mécanisme, donc je vous disais, pour la Pangée, où typiquement, on peut corréler un changement, un rebroussement, je dirais, du mouvement du pôle par rapport à l'Afrique, simplement en regardant plonger la Tétis entre 280 et 230 millions d'années. Donc c'est vraiment lié à la distribution, à la grande stabilité des zones de subduction, que ce soit la Pangée ou maintenant, en fait, le Pacifique a très très peu bougé, et le mouvement du pôle s'est toujours produit donc, dans un plan perpendiculaire donc, à l'Afrique. Voilà, je vais arrêter là.
On m'a demandé là, d'achever ce cycle de conférences par un exposé sur les mouvements qui se produisent à l'intérieur du noyau, donc la partie centrale de la Terre, qui est donc la boule de 3500 km à peu près, qui se trouve au centre de la Terre, qui est constituée de fer fondu, et dans lequel donc se produisent des mouvements. Alors, le titre, originalement, s'appelait « Les mouvements du noyau et le couplage noyau-manteau ». J'ai mis un pluriel, parce que vous verrez qu'en fait, les couplages sont nombreux et j'en évoquerai deux principalement. Alors justement, pour introduire mon exposé, quel mouvement, quel couplage ? Des mouvements, il peut y en avoir de nombreuses sortes, comme dans l'atmosphère. Ceux dont je vais parler sont ceux qu'on appelle des mouvements de convection et qui résultent de ce que, comme le manteau, comme l'atmosphère aussi, le noyau de la Terre se refroidit. Alors, le noyau, c'est plus semblable à ce qui se passe pour le manteau parce que le cœur de la Terre est à peu près à 5000 degrés. Il est chaud depuis que la Terre s'est formée, tout simplement parce que la Terre n'a pas réussi à évacuer cette chaleur. Si le noyau avait été seul, il se serait refroidi depuis très longtemps, mais comme il est enfermé à l'intérieur du manteau qui convecte très lentement, qui évacue sa chaleur très lentement, eh bien il est en quelque sorte enfermé et il évacue sa chaleur très lentement. Mais le fait qu'il évacue sa chaleur est quand même suffisant pour engendrer un phénomène de convection, c'est-à-dire que ce qui est chaud à l'intérieur cherche à monter, puisque c'est moins dense, pour se refroidir à la surface, devient plus dense et redescend à l'intérieur du noyau. Cela dit, le mécanisme est plus compliqué que ça, parce qu'il y a dans le cœur de la Terre, les mouvements sont suffisamment rapides pour être très influencés par la force de Coriolis, comme dans l'atmosphère. Et là, il y a une analogie avec l'atmosphère, une influence forte de la force de Coriolis. Alors, ces mouvements vont nous intéresser, puisque c'est le sujet. Mais pour les voir, il est important d'avoir en tête qu'on ne peut les voir que parce qu'ils sont responsables de la génération du champ magnétique terrestre via un mécanisme qu'on appelle mécanisme de dynamo. Donc ça, c'est quelque chose d'important et je vais passer une bonne partie de mon exposé à vous expliquer justement comment on peut voir les mouvements en observant le champ magnétique. Alors comme je le disais, ils sont influencés par la rotation de la Terre, ils sont aussi influencés par le champ magnétique qu'ils engendrent eux-mêmes et enfin, ils sont influencés par les conditions limites thermiques imposé par le manteau. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si le manteau est plus chaud quelque part ou plus froid quelque part, ça va modifier la façon dont la convection se produit et donc les mouvements qui sont engendrés. Il va donc apparaître deux types de couplages, et ce sont les deux couplages dont je vais parler, ce que j'ai appelé des couplages thermiques, c'est-à-dire la façon dont la répartition de la température à la base du manteau influence la convection dans le noyau, et d'autre part des couplages mécaniques, parce que eh bien, si vous enfermez quelqu'un dans une boîte et qu'il s'agite à l'intérieur de la boîte, vous allez secouer la boîte, vous allez le voir, et de nouveau on retombe sur le problème des irrégularités de la rotation de la Terre, dont on a vu qu'une partie était due justement au mouvement à l'intérieur du noyau. Alors, après cette introduction, je suis obligé de passer par une étape importante qui est de vous rappeler finalement pourquoi le mouvement d'un conducteur peut provoquer l'apparition d'un champ magnétique, ce qui est tout à fait remarquable car ce mécanisme revient à dire qu'on convertit de l'énergie cinétique en énergie magnétique sans autre opération que le fait qu'il y avait initialement un petit champ magnétique, mais qui a été maintenu. Alors, je vais vous expliquer ça de manière en étant assez simple, en me basant sur des notions que vous avez tous en tête. Le premier point, c'est le principe de la dynamo classique. Si vous prenez un petit aimant, puis une bobine de fil électrique, et que vous faites tourner cette bobine en présence de l'aimant, vous allez avoir un phénomène de flux coupé qui fait apparaître une différence de potentiel, et donc un courant électrique dans le fil. Le point qui est important, c'est que si vous supposez un aimant donné, vous tournez de plus en plus vite, eh bien votre intensité va être de plus en plus importante. Si je double la vitesse de rotation, je double l'intensité produite à l'intérieur de mon fil. Le deuxième mécanisme important, c'est le principe de l'électroaimant. Si je bobine convenablement un fil électrique, c'est un principe qui a été mis en évidence par Ørsted, je peux fabriquer un champ magnétique. Là aussi, il est important de souligner que si je double le courant électrique, pour un électron aimant donné, je vais doubler le champ magnétique. Et alors le principe de ce qu'on appelle une dynamo auto-entretenue, qui permet de faire apparaître un champ magnétique à partir de simplement le mouvement d'un conducteur, eh bien ça consiste à combiner les deux effets. Imaginez en fait que je parte avec l'aimant et que je commence à faire tourner ma bobine pour faire apparaître un courant électrique, et je fais tourner ma bobine de plus en plus vite, de sorte que l'intensité soit suffisante pour que l'électro-aimant qui est au milieu produisent un champ magnétique comparable à l'aimant que j'avais initialement. Donc imaginez ça. Et lorsque j'ai atteint ce courant électrique, très rapidement, je substitue l'aimant permanent par l'électro-aimant qui est alimenté par l'intensité qui convient. Et vous voyez que par cette opération, j'ai supprimé tout aimant permanent. Je n'ai plus qu'un conducteur, un courant électrique et le champ magnétique est entretenu en permanence pour peu que je maintienne la rotation suffisamment vite. Alors on peut mettre des équations dans cette affaire. Mais il est incontestable que, dans le principe, ça marche. Et c'est ce qu'on appelle donc une dynamo auto-entretenue. Alors, dans le noyau de la Terre, les choses sont un peu plus compliquées, mais c'est ça qui se produit. Alors, qu'est-ce qui se produit plus précisément ? Eh bien, le noyau conducteur, je vous l'ai dit, c'est du fer liquide. Il est conducteur. Il est en convection, donc il y a de l'énergie mécanique qui est disponible. Et ces mouvements, donc ce déplacement de conducteur, va s'organiser de telle sorte à entretenir le champ magnétique. C'est un petit peu comme la dynamo de tout à l'heure que j'aurais complètement fondue. Alors, il n'y a plus de bobine qui tourne, que je force à tourner, à avoir un mouvement particulier, mais c'est la convection elle-même qui produit ce mouvement. Alors, ce qui est très important à retenir, c'est que comme on est dans un système en rotation rapide, je vous le disais, la rotation de la Terre intervient et va organiser le mouvement, et puis le fluide lui-même va sentir le champ magnétique qui a été produit. Alors, dans la dynamo précédente, on l'aurait senti. Si moi, je fais tourner ma bobine, je sens l'apparition du champ magnétique parce que le champ magnétique, il est en train de prendre de l'énergie. Je suis obligé, j'ai du mal. Plus le champ magnétique croît, plus il faut que je fournisse de l'énergie pour compenser le fait que le champ magnétique va me freiner. Donc, il y a une rétroaction sur le conducteur liée à l'apparition du champ magnétique. Eh bien, dans le noyau, cette rétroaction, c'est ce qui fait que la convection va être sensible au champ magnétique qu'elle produit et se réorganiser. Et la chose qui est tout à fait magique, il n'y a pas de démonstration, si ce n'est numérique, par simulation numérique, eh bien, il se trouve que cette rétroaction est favorable au maintien du champ magnétique. On peut montrer que si vous prenez une sphère en rotation rapide, qui est refroidie par la surface, qui est suffisamment conductrice, alors apparaît d'abord une convection, c'est de la convection en rotation rapide, et puis si la convection est suffisamment vigoureuse, spontanément, s'il traîne un petit champ magnétique, et pour la Terre, c'était le champ magnétique du Soleil qui était déjà présent, et bien spontanément apparaît une dynamo. C'est donc ce qui se produit à l'intérieur de la Terre. Alors, cette dynamo, elle est associée à des mouvements, c'est les mouvements qui vont nous intéresser. Mais pour pouvoir les voir, vous comprenez que, eh bien, nous, l'outil qu'on va utiliser, c'est, on ne va pas regarder le mouvement directement, on va d'abord regarder le champ magnétique que produit cette dynamo. Alors, le principe pour faire ça, c'est d'utiliser des observations à la surface de la Terre. Alors là, je fais une petite digression par l'observation du champ magnétique terrestre, simplement pour vous rappeler que c'est le champ magnétique terrestre, c'est probablement l'une des plus anciennes observations donc, qui ait jamais été archivée par l'homme avec les observations astronomiques, tout simplement parce que dès que le champ magnétique a été découvert, le principe de l'alignement d'une boussole a évidemment intéressé les gens pour la navigation, puis quand on s'est rendu compte que le champ magnétique variait, eh bien, il a fallu maintenir des observations pour pouvoir actualiser les cartes pour la navigation. Donc il existe des données historiques très nombreuses, sur plusieurs siècles, de très bonne qualité, et puis même encore aujourd'hui, on maintient des observatoires, et puis des observations avec des satellites, pour tout un tas d'applications sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui vont bien au-delà de simplement comprendre l'origine du champ magnétique terrestre. Donc toutes ces observations, eh bien, on peut les combiner pour pouvoir essayer de retrouver le champ magnétique produit par les dynamos. Alors en fait, ça n'est pas si simple, parce qu'il existe la dynamo à l'intérieur de la Terre, crée le champ magnétique principal, mais il y a tout un tas d'autres sources secondaires qui sont présentes à la surface de la Terre. Par exemple, le sous-sol est aimanté, les roches du sous-sol sont en partie aimantées, et ce champ va venir s'ajouter au champ du noyau et gêner l'observation directe du champ produit par la dynamo. Il existe aussi des sources qui sont dans l'ionosphère, dans la magnétosphère, tout ça est très dynamique. Enfin, tout ça pour vous dire que l'étude du champ magnétique terrestre donne des informations sur tout un tas de choses, et que si on veut étudier la dynamo, il faut séparer toutes ces sources, qui sont très intéressantes en elles-mêmes, mais évidemment nous gênent. Donc, pour vous dire qu'avec les observations, on peut effectivement retrouver le champ du noyau, mais ce champ, il y a pas mal de choses à faire pour le débarrasser des autres sources et l'identifier. Mais une fois qu'on a fait ça, La magie du champ magnétique tient à ce qu'il est en mathématiques, c'est un champ potentiel, c'est-à-dire que si on sait que les sources sont à l'intérieur du noyau, si on fait l'hypothèse qu'on a réussi à se débarrasser de toutes les autres sources, eh bien, on peut prolonger les observations pour reconstituer le champ magnétique à la surface du noyau. En faisant simple, je dirais, on peut remonter les lignes de champ jusqu'à arriver à la surface du noyau. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, puisque ce qui se passe à l'intérieur du noyau, la physique nous dit qu'on ne peut pas l'extrapoler, puisque le champ ne devient plus potentiel, je rentre dans les sources. Mais entre la surface de la Terre et la surface du noyau, donc lorsque je traverse le manteau, il est raisonnable de faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de source significative, et donc on peut aller jusqu'au noyau. Et alors, quand on est au noyau, on peut reconstruire une carte comme tout à l'heure, et c'est cette fois-ci, alors la projection n'est pas exactement la même, on démarre en 1590, et avec les données historiques combinées avec les données modernes, je passe sur le fait que les données anciennes sont évidemment d'un peu moins bonne qualité que les données récentes. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de structure parce qu'on s'est rapproché du noyau et tout ce qui est petite échelle devient beaucoup plus intense. C'est comme pour le champ de gravité, on voit mieux les petites échelles lorsqu'on est proche de la source, plus on s'éloigne, moins on voit les petites échelles et il ne reste que les grandes échelles. Donc lorsqu'on est à la surface de la Terre, on voit beaucoup le champ dipôle, mais quand on se rapproche du noyau, on commence à voir beaucoup plus de détails et c'est finalement là la dynamo de la Terre qui est en action. Alors, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc sur à peu près 4 siècles, vous voyez que le champ varie à l'échelle du siècle, c'est ce qu'on appelle la variation séculaire. Cette variation séculaire, elle est substantielle, elle va mener à l'apparition même dans l'hémisphère sud, par exemple, d'une région où le champ, au lieu de sortir du noyau pour aller jusqu'à la surface de la Terre, fait demi-tour et revient à l'intérieur. Donc un champ magnétique dont la structure est beaucoup plus compliquée. Alors, ça, c'est l'évolution du champ magnétique. Alors, vous allez me dire, l'exposé, c'était les mouvements à l'intérieur du noyau. Alors, comment fait-on pour avoir les mouvements à l'intérieur du noyau? Eh bien, c'est justement en exploitant ces observations et en partant du principe, alors c'est quelques équations que j'ai écrites, le principe, c'est que si le champ varie à la surface du noyau, c'est à cause des mouvements qui se produisent à la surface du noyau. On peut écrire l'équation. Cette équation-là vous dit que les variations du champ magnétique, ou que ce soit d'ailleurs à l'intérieur du noyau, résultent de deux phénomènes. La présence de mouvement qui va entraîner, alors c'est une équation un peu compliquée, mais fondamentalement c'est une équation qui vous dit que le champ magnétique est entraîné par le mouvement et induit une variation du champ magnétique. Et il y a un deuxième terme ici qui est un terme dissipatif, qui correspond au fait que le champ magnétique a tendance à vouloir disparaître à cause des pertes ohmiques. Donc là, cette équation, elle résume assez bien le problème de la dynamo. Il faut que la convection soit suffisamment vigoureuse pour en permanence recréer du champ magnétique et empêcher la dissipation ohmique. Mais il se trouve que dans le noyau, quand on voit les constantes de temps, on constate que la dynamo est très vigoureuse et agit sur des constantes de temps qui sont très courtes, bien plus courtes finalement que les constantes de temps qui font disparaître le champ. Et cette constatation permet de dire que lorsque je me mets à la surface du noyau, où je vois la composante radiale, c'était l'écart de tout à l'heure, cette équation, je peux la simplifier un petit peu. Et le terme qui est ici, le terme de diffusion, eh bien, il est raisonnable de le négliger et de considérer finalement que ce qui bouge, c'est exactement le résultat des mouvements à la surface du noyau. Donc, pour procéder à la reconstruction des mouvements à la surface du noyau, alors j'insiste bien, on a au départ des observations magnétiques, il faut un peu de travail pour se débarrasser des sources qui ne sont pas celles du noyau. On espère qu'on ne s'est pas trop trompé quand on a fait ça, mais on a de bons outils et une théorie simple, donc les choses sont relativement robustes. On descend à la surface du noyau, jusque-là, on pense qu'il est raisonnable de faire ça, et à partir de maintenant, on rentre dans des hypothèses qui sont quand même des hypothèses assez lourdes, relativement bien étayées, mais qui demeurent des hypothèses. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'on parle plutôt de mouvements reconstruits. On ne voit pas vraiment les mouvements. Ce sont des hypothèses qui permettent d'imaginer ce que ces mouvements sont. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'une fois qu'on a reconstruit ces mouvements, comme vous allez le voir, on prédit assez bien un certain nombre d'effets, dont ceux sur la rotation de la Terre, ce qui nous donne confiance dans le travail qui a été fait dans l'interprétation des données magnétiques. Donc, si je fais ce genre d'exercice, voici typiquement une carte reconstruite à partir des données magnétiques que je vous montrais tout à l'heure. Alors ces cartes, elles ont quelque chose de presque familier, parce que finalement, comme je vous le disais, le noyau de la Terre est influencé par la rotation de la Terre, et il va y avoir la même influence et les mêmes lois qui aboutissent au fait que les mouvements ont tendance à s'organiser autour de surpression ou de sous-pression, ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un anticyclone ou d'une dépression à la surface du noyau. Et l'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, deux choses, les ordres de grandeur, les mouvements, c'est à peu près 20 km par an, l'ordre de grandeur. c'est quelque chose d'assez rapide pour l'intérieur de la Terre. C'est à peu près 60 mètres par jour. Autrement dit, si vous êtes un tout petit peu observateur, si vous étiez à la surface du noyau, vous verriez les mouvements en train de se faire. C'est beaucoup plus rapide que la tectonique des plaques, bien entendu. Bon, c'est plus lent que l'atmosphère, mais ça, on peut le comprendre facilement. Mais c'est donc des mouvements qui se produisent à échelle humaine. La deuxième chose aussi, c'est que quand on reconstruit ces mouvements, vous voyez qu'ils ont tendance à être symétriques par rapport à l'équateur, mais ne le sont pas exactement. Et ça, c'est une chose aussi intéressante à retenir, parce que la question suivante, c'est celle qui consiste à se poser, est-ce que finalement les mouvements qu'on observe de cette manière-là, est-ce qu'ils sont conformes à ce qu'on pourrait attendre d'un point de vue théorique ? Alors, l'aspect théorique de la théorie dynamo est extrêmement sophistiqué, je simplifie mon propos ici, mais il y a quelques règles simples qu'on peut relativement bien établir et qui permettent justement de faire ces comparaisons. La première de ces règles, c'est que si on regarde des phénomènes qui se produisent à des constantes de temps suffisamment courtes, eh bien, on est dans une situation où la rotation de la Terre joue un rôle particulièrement important et rigidifie tous les mouvements. Autrement dit, les mouvements ont tendance à être bidimensionnels. C'est-à-dire que c'est toute une colonne qui réagit de la même manière. Si vous avez un cylindre qui tourne, eh bien, il tourne de la même manière sur toute la longueur. Et donc ça, en quelque sorte, le mouvement est simplifiable. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que ça veut dire que si vous observez le mouvement à la surface de la Terre, vous avez des chances de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous constaterez que ça prédit automatiquement que le mouvement doit être symétrique de part et d'autre de l'équateur, ce qui n'est pas exactement le cas. Mais, comme je vous le disais, cette théorie-là est valide uniquement si on regarde des phénomènes qui se produisent à des échelles de temps suffisamment courtes. Mais les mouvements qu'on voit, ils sont la superposition de phénomènes rapides et de phénomènes plus lents. Et ces phénomènes plus lents, eux, ils sont susceptibles d'être sensibles aux conditions aux limites que le manteau lui impose. Autrement dit, la convection, elle peut être contrariante. Vous avez une compétition entre la force de Coriolis, qui veut rendre les choses bidimensionnelles, mais les conditions aux limites qui peuvent être plus chaudes, plus froides au nord, au sud, parce que, comme le disait Marianne, il y a des plaques de subduction, il y a des panaches, et la convection du manteau elle-même engendre des hétérogénéités de température à la surface du noyau. Et donc, on peut se poser la question de savoir si les mouvements qu'on voit satisfont ces deux aspects de la convection dans le noyau. Eh bien, ce n'est pas facile à faire, parce que comme vous le savez, dès qu'il s'agit d'observer profondément l'intérieur de la Terre, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on peut utiliser la tomographie que Marianne évoquait, cette fois-ci pour apprécier les hétérogénéités de température à la surface du noyau, et puis grâce à des simulations numériques sur lesquelles je passe, mais on peut faire des simulations numériques qui ont leurs limites, j'insiste bien, mais qui permettent d'apprécier la situation, on peut essayer de voir quelle est l'influence de ces hétérogénéités de température sur la convection dans le noyau. Et lorsqu'on fait ça, on constate qu'on retrouve certaines des structures qu'on voit dans le mouvement moyen sur plusieurs siècles. On peut faire la moyenne, et puis sur plusieurs siècles, la moyenne, eh bien, essayer d'apprécier si elle est compatible avec ce que prédisent les observations. C'est raisonnablement compatible. Il y a une difficulté qui est qu'en fait, l'effet du manteau se voit bien que si on a des moyennes sur de très grandes échelles de temps, il faudrait plusieurs milliers d'années, mais malheureusement, on n'a pas les observations sur ces échelles de temps. Le message important, c'est que l'ordre de grandeur de l'effet est tout à fait comparable à ce qu'on voit, et donc c'est satisfaisant de ce point de vue-là. Alors, si maintenant je reviens sur... Donc ça, c'était l'aspect couplage thermique. Il existe un couplage thermique, et l'influence du manteau sur le mouvement moyen au cours des derniers siècles est probable qu'on peut reconstituer à partir des observations magnétiques. Un point aussi pas inintéressant à signaler dans une étude qu'on a faite récemment avec Julien Aubert à l'IPG, c'était de regarder justement si cette influence ne pouvait pas aussi se propager jusqu'à la structure de la graine à l'intérieur du noyau. Alors, je n'ai pas parlé de graine pour l'instant, mais elle était là cachée dans le diagramme. Qu'est-ce que c'est que la graine ? La graine, c'est la partie centrale du noyau qui correspond à la partie cristallisée. Depuis que la Terre se refroidit, eh bien, le noyau perd de l'énergie et l'effet est de permettre la cristallisation qui se produit au centre, bien que ce soit le point le plus chaud, tout simplement parce que c'est surtout là que la pression est la plus élevée. Donc là, il y a une subtilité liée aux effets croisés de la température et de la pression qui fait que c'est au cœur que la cristallisation démarre. Mais au fur et à mesure que, que le temps passe, la cristallisation fait croître la graine, et comme la convection est sensible aux conditions aux limites imposées par le manteau, eh bien, si votre convection est dissymétrique, elle a tendance à faire croître la graine de manière un petit peu dissymétrique, et cette dissymétrie, on peut l'observer grâce à la sismologie. Alors, je passe un petit peu sur les détails, mais simplement pour vous dire que l'influence, donc le couplage thermique avec le manteau, est aussi probablement responsable d'une partie de la structure de la graine à l'intérieur du noyau. Ça, c'était donc pour les aspects couplage thermique. Alors, pour ce qui est de ce que j'ai appelé les couplages mécaniques, alors là, très sincèrement, c'est un sujet tellement vaste qu'il m'est difficile de passer tout en revue. Je vais quand même vous présenter quelques résultats. Ce qu'on appelle les couplages mécaniques, c'est finalement les couplages qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, en tout cas pour ce qui est de l'atmosphère, c'est-à-dire la façon dont le noyau liquide peut échanger du moment cinétique avec le manteau, entre parenthèses aussi avec la graine, et donc modifier la durée d'un jour et influencer le mouvement du pôle de rotation. Alors là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, avec deux familles d'études, comme pour l'atmosphère, des études qui s'intéressent aux mécanismes, aux couples, essayer de prédire ce que la viscosité, donc l'entraînement par la viscosité peut produire, ou les effets de pression, donc ce que les gens appellent le couplage topographique, c'est-à-dire les hautes pressions, basses pressions sur un relief, des couplages gravitationnels entre les zones de haute densité, basse densité de la convection du noyau avec le manteau, et électromagnétiques, parce que malgré tout, le manteau est un petit peu conducteur électrique et vous avez un entraînement électrique entre le manteau et le noyau. Alors tous ces mécanismes sont plausibles et finalement, mis à part le couplage visqueux dont on peut montrer qu'il est négligeable, donne des ordres de grandeur comparables. Alors, quand on a les cartes de mouvement, comme je vous le montrais tout à l'heure, ça permet de quantifier, d'apprécier, mais beaucoup d'autres paramètres interviennent, comme par exemple la conductivité à la base du manteau ou la topographie entre le manteau et le noyau, qui est une topographie qui existe, mais qui est très difficile à observer, que les sismologues observent, mais qu'il est difficile de contraindre de manière précise. Mais donc, comme je vous le disais, ces études permettent de montrer que les couplages existent et sont du bon ordre de grandeur pour expliquer les irrégularités de rotation de la Terre. Mais la façon la plus convaincante de montrer que c'est bien le cas, c'est de prendre donc la deuxième approche, comme celle qui avait été prise tout à l'heure, une approche de conservation du moment cinétique. C'est-à-dire, puisque l'on peut observer les mouvements à la surface du noyau, si en particulier je m'intéresse aux irrégularités de rotation à l'échelle décennale, ce sont des constantes de temps rapides. Pour ces constantes de temps rapides, il est parfaitement légitime de faire l'hypothèse que ce que je vois à la surface du noyau, c'est la trace de ce qui est l'ensemble du mouvement dans le noyau. Donc on va sélectionner donc, parmi les mouvements qui se trouvent à la surface de la Terre, ceux qui varient aux échelles décennales, ne se concentrer sur ceux qui correspondent à des mouvements axisymétriques, parce qu'on peut montrer par ailleurs que tous les autres mouvements donnent un bilan net de moments cinétiques nuls. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, il suffit de quelques termes pour pouvoir reconstituer le moment cinétique du noyau. C'est une chance parce qu'on n'observe le champ magnétique que pour les grandes échelles. Et donc, ce sont des termes auxquels on a accès grâce aux cartes reconstituées. Donc, on peut faire ce genre d'exercice. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne les bons ordres de grandeur pour expliquer la partie que, par ailleurs, l'atmosphère et l'océan ne parviennent pas à expliquer. Je reviens un petit peu là sur l'ordre de grandeur. On tombe sur les millisecondes. Vous vous rappelez l'introduction de tout à l'heure. L'atmosphère vous fabrique une milliseconde, mais elle aurait beaucoup de mal à vous fabriquer 2 millisecondes en trop ou 2 millisecondes en moins sur plusieurs dizaines d'années. Il faudrait qu'il y ait un vent permanent à la surface de la Terre pendant 5 ans et puis un vent permanent dans l'autre sens. Ça n'est pas possible. Cette observation a été faite depuis longtemps et c'est donc pourquoi on sait que le noyau est coupable de ces irrégularités-là, mais il est satisfaisant de voir que quand on prend les observations magnétiques, qu'on les interprète comme je vous l'ai montré, on les analyse, on arrive à reconstituer le moment cinétique du noyau qui explique raisonnablement bien. Mais ce qui est intéressant, c'est là, je cite donc un travail tout récent qui a été publié dans Nature par une équipe de Grenoble, et un des membres de notre équipe aussi a travaillé là-dessus, et qui s'est concentré sur l'observation donc, d'une période de 6 ans qu'on voit dans la durée du jour, et qui a remarqué que grâce donc, au type de calcul que je vous montrais, isolant les ondes de 6 ans qui se produisent dans les mouvements du noyau, eh bien, une remarquable coïncidence en termes de phase, en termes d'amplitude, entre ce que peut produire le noyau et ce que l'on observe donc, dans la durée du jour. Ce qui montre, une fois de plus, qu'il y a une certaine... donne confiance dans toute la théorie qui a été utilisée pour rendre compte de ces observations. Alors, à plusieurs reprises, on a dit qu'il était utile, qu'on pouvait se poser la question de pourquoi on se préoccupait de tant de choses, l'irrégularité de la rotation de la Terre. Est-il si important d'expliquer 2 millisecondes en trop ou pas sur 10 ans? Effectivement, pour la mécanique céleste, pour tout un tas d'applications, le côté opérationnel est important. Pour ce qui est de reconstituer le passé, et finalement, la chose qui est importante pour nous, c'est surtout que c'est la seule observation complètement indépendante qui permet de montrer que, semble-t-il, on comprend bien comment le champ magnétique de la Terre est produit, comment le champ magnétique varie, pourquoi ces variations sont associées à des mouvements, comment ces mouvements sont liés à des mouvements d'ensemble qui provoquent des changements de moments cinétiques dans le noyau. Bref, toute une cascade d'hypothèses qui sont validées finalement, en dernier recours, par le fait qu'on prédit correctement les observations complètement indépendantes de l'irrégularité de la rotation de la Terre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça prouve qu'on comprend de mieux en mieux la dynamique du noyau, mais c'est aussi intéressant, entre parenthèses, pour des choses aussi pratiques qui peuvent intéresser, et ce sur quoi d'ailleurs beaucoup de gens se mettent à travailler sérieusement, qui est d'essayer de développer, un petit peu comme on l'a été fait en météorologie et en océanographie, des méthodes d'assimilation de données pour aller, puisque maintenant on commence à comprendre la dynamique du noyau, vers une prédiction de l'évolution du champ magnétique terrestre. Alors vous allez me dire à quoi ça peut bien servir. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la question de l'évolution du champ magnétique terrestre n'est pas si importante pour nous les hommes. Certes, le champ magnétique nous protège des radiations, mais il faut savoir, j'en profite pour le dire, parce que souvent on nous dit s'il n'y avait pas de champ magnétique, on aurait des ennuis au moment des inversions, etc. Nous, hommes, non, pas vraiment, parce qu'en dernier recours, on est protégé par l'atmosphère. Donc l'atmosphère, de toute façon, nous protège. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une inversion, il n'y a jamais eu la moindre corrélation avérée avec des disparitions d'espèces ou de phénomènes de ce type. Par contre, nous sommes dans une société de technologie avec beaucoup de satellites. Et eux, les satellites, sont au-dessus de l'atmosphère. Et si le champ magnétique disparaît, ils sont exposés. Ils n'ont pas, le champ magnétique n'a pas besoin de disparaître. Il suffit que son intensité diminue. La région de l'Atlantique Sud, à la surface de la Terre, eh bien, l'Atlantique Sud, c'est la région où une partie du champ a la mauvaise idée de re-rentrer immédiatement à l'intérieur du noyau au lieu de parvenir jusqu'à la surface de la Terre. Le simple fait que ces lignes de champ re-rentrent dans le noyau affaiblit le champ magnétique que nous observons. Il nous manque des lignes de champ, en quelque sorte. C'est ce champ faible qui est responsable d'une région qu'on appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud, où le champ est moins intense et où, effectivement, les particules qui se trouvent dans l'environnement terrestre peuvent descendre plus bas et gêner les satellites. Ça n'est pas juste une question d'incident anecdotique, ce sont des phénomènes qui peuvent mener à des pannes importantes de satellites qui coûtent une petite fortune. Et donc il n'est pas complètement inintéressant de se préoccuper de savoir si cette anomalie va continuer à évoluer, mais on aimerait bien savoir comment les choses vont évoluer, puisque, comme vous le savez, planifier les missions spatiales prend du temps, et on aimerait bien que les satellites restent là un certain temps, donc c'est quelque chose qui intéresse tout particulièrement les agences spatiales de manière générale. Voilà, je crois que je vais en rester là, et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.
C'était Gauthier Hulot et Marianne Greff, tous les deux paléomagnéticiens à l'Institut de physique du Globe de Paris. Ils intervenaient dans le cadre de la journée scientifique du Bureau des Longitudes en juin 2010. Restez à l'écoute de cette retransmission de conférence en téléchargeant le premier volet avec Pascal Delecluze sur le couplage océan-atmosphère et Christian Bizoire sur l'effet des couches fluides externes de la Terre sur sa rotation. Et pour connaître le programme des conférences du Bureau des Longitudes, toujours ouverte au public, connectez-vous au www.bureau-d-longitude.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.